Alors, on change complètement d'univers, puisque, comme chaque mois, dorénavant, nous accueillons maintenant Bruno Denaz. Bonjour.
Bonjour Jacques Monin, bonjour à tous.
Alors, vous êtes le médiateur de Radio France. Vous recevez donc les remarques que les auditeurs ou les internautes vous font remonter sur Secret d'Info. Et pour ce qui est de nos dernières enquêtes, alors, il y a un sujet qui a fait beaucoup parler.
Ah oui, c'est cette fameuse carte de crédit rechargeable offerte par Airbnb à ses loueurs. L'argent est versé aux loueurs de logements via cette carte émise à Gibraltar. Tout bénéfice évidemment pour le particulier loueur car le revenu de ces locations devient invisible pour le fisc. Alors c'est votre cellule d'investigation, Jacques Monin, qui a débusqué cette forme d'évasion fiscale et des auditeurs ont eu l'impression que Bercy découvrait cette manipulation grâce à vous.
Alors en l'occurrence, c'était Sylvain Tronchet qui a découvert effectivement cette fameuse carte et qui a enquêté là-dessus. Alors Sylvain, Bercy n'était pas au courant ?
Non, Bercy n'était pas au courant effectivement lorsque je leur ai posé la question. On peut envisager, admettre que certaines pratiques échappent au radar de Bercy. Après tout, on n'est pas sur un mouvement totalement massif. Ça doit concerner quelques centaines, peut-être un ou deux milliers de propriétaires tout au plus. Mais ce que cette affaire montre, c'est que clairement, il y a des trous dans la raquette à tous les niveaux en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. En théorie, Gibraltar, où est basée cette carte, est un territoire qui est censé échanger des informations bancaires avec la France, ce qui ne devrait pas permettre l'opacité que permet cette carte. Mais ce dont on s'est rendu compte en enquêtant, c'est que ce type de comptes, qui sont très courants, parce que ça, en revanche, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers, des millions dans le monde, ça c'est sûr, ce type de compte échappe aux accords internationaux d'échange d'informations bancaires. Et clairement, c'est un biais,
c'est une niche,
voilà, qui peut permettre de favoriser la fraude fiscale, mais aussi, et ça a été déjà dénoncé par le gouvernement, le financement du terrorisme.
Alors cela dit, beaucoup d'auditeurs ont apprécié vos révélations et ses conséquences, il fallait le dire aussi. Mais des auditeurs comme Albin estiment qu'au lieu de s'indigner contre Airbnb qui exploite les failles du système, il vaudrait mieux s'indigner des gouvernements et des parlementaires incapables de faire des lois empêchant la fraude fiscale. On en revient à une remarque assez récurrente. Que font les politiques contre ces pratiques frauduleuses ?
On peut aussi s'indigner, mais c'est une remarque en passant, contre les voleurs et pas seulement contre la police qui n'est pas assez efficace. Cela dit, la deuxième partie de la remarque est vraie. Alors Sylvain, on a déjà un peu répondu là-dessus. C'est vrai, et c'était dans l'enquête, que le pouvoir a longtemps regardé Airbnb avec une certaine bienveillance.
Et quelque part, ça s'est encore confirmé parce que suite à nos révélations, les dirigeants d'Airbnb ont été convoqués à Bercy, à l'issue de quoi ils se sont engagés à retirer cette carte de paiement. Mais quelques jours plus tard, le sujet est revenu à l'Assemblée nationale sous la forme d'un amendement qui demandait l'interdiction de ce type de carte pour payer des revenus de location touristique. Et là, le même gouvernement, par la voix de Gérald Darmanin, est venu dire que ça posait des problèmes techniques et a demandé finalement à ce qu'on repousse l'interdiction de ces cartes au 1er juillet 2019, 18 mois pour mettre en place ce genre de mesures. Alors, les députés lui ont dit que ça faisait quand même un peu beaucoup. Il a accepté de revenir au 1er janvier 2019, mais il va falloir encore attendre un an avant que ces cartes soient définitivement interdites pour ce type de transaction. Et l'excuse qui est avancée, les problèmes techniques, clairement sans le lobbying, une nouvelle fois, des plateformes de location touristique qui invoquent toujours des problèmes techniques régulièrement pour éviter de devoir se soumettre à de nouvelles réglementations.
Et là aussi, on voit qu'il y a un décalage parfois entre la communication, puisque à ce moment-là, on s'est dit, tiens, le gouvernement prend à bras-le-corps le problème. Puis quand on regarde concrètement comment tout ça s'est réglé, c'est un peu différent. Juste préciser, quand je parlais de voleurs tout à l'heure, je ne parlais pas d'Airbnb, qu'on soit bien clair, c'était une image, c'était le principe dont je parlais. Voilà. Alors Bruno, un autre sujet a visiblement suscité aussi beaucoup de réactions.
Oui, il s'agit du sujet sur les tutelles et les abus ou négligences qu'elles peuvent entraîner sans un véritable contrôle. Alors, vous le rappeliez, lors de cette enquête, en France, près d'un million de personnes sont sous protection juridique. Beaucoup de professionnels nous ont écrit, la plupart ont eu l'impression d'une enquête à charge contre eux. Vous ne parlez que de ceux qui font du tort à notre profession, mais il y a des personnes motivées et sérieuses qui font un excellent travail, nous dit Myriam. Et Julien ajoute, oui, il existe des mandataires maltraitants et voyous, mais ce n'est qu'une infime partie de la profession. Pourquoi jeter l'opprobre sur nous tous ? Je suppose que ce n'était pas vraiment le but.
Non, évidemment, ce n'était pas le but. Alors, on va s'expliquer. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions. Mais là, je vais donner la parole à Laetitia Chérel, puisque c'est la journaliste qui a mené l'enquête. Alors, c'est vrai, Laetitia, cela dit, c'est un peu un classique. Dès qu'on pointe un dysfonctionnement quelque part, ceux qui, eux, font correctement leur travail, j'allais dire, se sentent aussi visés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont inclus dans une minorité qui n'est qu'une minorité. société et ils se sentent un peu montrés du doigt, quoi.
Oui, c'est arrivé par exemple avec l'enquête qu'on avait faite sur les dérives dans les maisons de retraite ou sur les dérives dans l'ordre des dentistes. Bon, chacune de ces professions s'est sentie à l'époque visée, même si on avait bien précisé que toute la profession ne se comportait pas de cette façon. Et c'est à nouveau le cas. On a bien pris la peine pendant l'enquête de préciser que toute la profession n'était pas concernée. En revanche, de dire, comme certains auditeurs, certains mandataires, tuteurs l'ont affirmé, que c'était des pratiques marginales, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, parce que quand on voit que la Cour des comptes elle-même s'est penchée sur ces dysfonctionnements l'année dernière dans un rapport assez sévère qui épingle de très nombreux abus, voire escroqueries, quand on voit que ce même rapport avait été fait en 1998 qui pointait à peu près la même chose, on peut quand même avoir des doutes. Alors on est parti de ce constat, on a tiré un fil, j'ai moi-même appelé le défenseur des droits pour savoir s'il y avait des retours, puisque c'est une sorte d'observatoire de la société, le défenseur des droits, et on m'a confirmé là-bas qu'en fait c'était un des sujets les plus régulièrement traités par les Français qui contactent le défenseur. Donc ces abus, ces négligences, ça n'a pas l'air si marginal que ça. Et ensuite, ben, ça n'a pas été si compliqué non plus hein, de trouver des exemples à travers des praticiens, alors ça peut être des directeurs de maisons de retraite, même des juges, des tutelles qui eux-mêmes ont souhaité garder l'anonymat, mais pour nous confirmer ces constats, soit de petites négligences, soit de grosses escroqueries. Donc voilà, ensuite on a essayé de tirer un fil et de voir comment ces abus sont permis par le système. Et là, on a constaté ce que déjà dénonçait la Cour des comptes, c'est-à-dire une absence de contrôle. Alors dans la loi ça existe, mais dans les faits c'est très peu appliqué, tout simplement parce que pour un seul juge des tutelles, il y a 3400 dossiers, que les greffiers qui ont beaucoup de choses à faire dans certains tribunaux, ils ne peuvent vérifier les comptes que de 5% des dossiers qu'ils ont. Donc on comprend vite que ça peut laisser la voie à des tuteurs, des mandataires indélicats, que ce soit des associations ou même des proches des familles.
Alors d'ailleurs, à ce propos, on peut vraiment aller dans le sens de ce que disait Laetitia, parce que à côté de ces remarques de professionnels que je vous citais, eh bien beaucoup, vraiment beaucoup d'auditeurs se sont reconnus dans les situations décrites dans l'enquête. Ils nous ont d'ailleurs envoyé leurs témoignages. Par exemple, Eliane: mon père, mis sous tutelle par un mandataire judiciaire, se retrouve après une brillante carrière comme un misérable dans un hôpital longue durée, parce que c'est la solution la moins chère. Il a une très grosse retraite et un patrimoine, mais il est privé de tout. La gestion est très dispendieuse. Donc en fait, on le voit, il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui ont réagi comme ça. Beaucoup de merci en tout cas pour votre enquête, en espérant que les choses bougent. Alors, est-ce possible ?
Alors oui, ça bouge lentement. Si vous permettez, je voudrais juste revenir sur l'affluence des messages, hein, parce qu'il y a une association qui est citée dans l'enquête, l'AFCAT, hein, l'Association française contre les abus tutélaires. Ils ont reçu un tel courrier que leur messagerie est débordée. Ils ont reçu à peu près un millier de messages. Hein. Ça, c'était une parenthèse. Donc ça bouge, oui. La loi de 2007 a rendu, par exemple, la formation qui existait déjà obligatoire pour les tuteurs. Donc ça encadre les choses, disons. Au ministère des Solidarités, depuis plusieurs mois, il y a un groupe de travail qui planche sur l'éthique de la profession. Hein. On l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas de charte déontologique. Et puis, il y a une troisième piste, hein, c'est cette proposition de la Cour des comptes qui dit il y a deux ministères qui s'occupent des tutelles, et les affaires sociales et la justice, il faudrait qu'ils se coordonnent un peu. Donc, la Cour des comptes propose de créer un poste de délégué aux tutelles. Mais quand on voit qu'il y a à peine une dizaine d'inspecteurs de tutelle aux affaires sociales, ça peut laisser un petit peu sceptique.
Alors Bruno, des réactions aussi sur notre enquête sur les séquelles neurologiques du rugby, c'est autre chose.
Oui, bien sûr, avec une forme de déni en fait des auditeurs adeptes de ce sport et qui nous ont écrit. Ils estiment que oui, le rugby c'est violent, mais les joueurs y sont préparés. Et certains ne comprennent pas que vous soyez appuyé sur une étude concernant le football américain. Et c'est Tom qui nous a écrit cela, parce que pour lui, ça n'est pas le rugby.
Eh ben, on va expliquer ça. Isabelle Souquet, c'est vous qui aviez enquêté, en l'occurrence. Alors, quel rapport entre le football américain et le rugby ?
Alors oui, effectivement, le foot américain, c'est pas le rugby, mais c'est quand même un des sports qui s'en rapproche le plus. Et c'est surtout un des sports qui a été étudié sur le plan des commotions. Avant ça, il y a eu, il faut pas l'oublier, la boxe. Ça a été le premier sport qui a été étudié. Il faut dire que c'est un sport où le principe même, c'est d'avoir des commotions, puisque le principe même c'est de mettre l'autre KO, et un KO c'est forcément une commotion. Mais les études sur la boxe étant ce qu'elles sont, c'est le principe des chocs répétés, on ne pouvait pas s'appuyer sur les études qui existaient sur la démence pugilistique, hein, qui est la résultante des problèmes de boxe. On a donc regardé ce qu'était le football américain, le soccer, qui a, vous voyez les images de ces types qui sont très harnachés, qui ont des protections énormes, bien plus que dans le rugby, ça cogne très fort chez eux. Et surtout, on s'est rendu compte qu'une étude qui a été faite concernait une centaine de joueurs qui ont bien voulu, après leur mort, que la science récupère leur corps et surtout leur cerveau pour l'étudier. Là, le constat était vraiment dramatique parce que ces cerveaux étaient tous très abîmés et surtout de gens qui, de leur vivant, à la fin de leur vie, ne présentaient pas de symptômes visibles sur l'imagerie médicale, les IRM et les scanners. Donc vous imaginez, ça induit un vrai problème de se dire, est-ce qu'on peut vraiment s'atteler à ce problème parce qu'on ne le voit éventuellement pas.
Oui, donc ce que ça nous dit, c'est qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des séquelles neurologiques dans le rugby qu'aujourd'hui on ne voit pas, parce qu'on voit sur les cerveaux américains des choses qui n'apparaissent pas à l'imagerie traditionnelle médicale. Donc il faudrait qu'on lance ces études en France, études qui commencent mais tout doucement.
Oui, tout doucement, depuis 2012, les chiffres remontent, les commotions sont listées en feuille de match, mais voilà, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'attendre 20 ans les résultats d'une enquête avant de s'occuper vraiment des commotions cérébrales dans le rugby.
Très bien.
Bien, merci Bruno Denas. On vous retrouve donc dans un mois et j'en profite pour vous encourager tous à poster vos commentaires sur nos adresses, hein, franceinter.fr, on l'a dit tout à l'heure, Facebook, etc. Mais aussi sur le site du médiateur.radiofrance.fr. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On va voir que les canons à neige sont peut-être moins inoffensifs qu'on pourrait le croire.